Radio Grand Ciel présente Écho de ma commune, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Paolo Davi. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, c'est avec joie que je reçois Guy Navot. Il habite Rueil-la-Gadelière. Il connaît très bien cette commune puisqu'il a été maire, puis conseiller juridique. Tout ce qu'il pouvait faire à Rueil-la-Gadelière, il le fait. Guy Navot, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, Rueil-la-Gadelière, c'est un mot que je n'avais jamais entendu avant de vous connaître. Mais depuis, je connais Rueil-la-Gadelière et d'abord le nom, au départ, m'a beaucoup intriguée. Pouvez-vous me parler, d'abord peut-être avant, situez-nous Rueil-la-Gadelière pour nos amis qui ne connaissent forcément pas Rueil-la-Gadelière.
Eh bien, Rueil-la-Gadelière, ce sont deux communes qui ont fusionné en 1858. Alors, Rueil vient du mot Ruellus, ce qui se comprend bien parce qu'il y a une rivière, et il y a des sources, et tandis que la Gadelière, c'est un peu plus confus, ça peut être un chevalier qui serait appelé Gadel, ou un lieu qui serait planté de gadeliers. Mais on n'est pas trop sûr de la définition.
Les gadeliers, ce sont des cerises, en quelque sorte.
Les gadeliers, c'est un genre de petits fruits rouges.
Genre cerise, il y a un petit noyau.
Exactement.
Alors, situez-nous maintenant Rueil-la-Gadelière.
Alors, Rueil-la-Gadelière est située dans le nord du département, à peu près à mi-chemin entre Brezolles et Verneuil-sur-Avre.
Oui,
Je précise que Verneuil est dans l'Eure.
Voilà. Mais c'est quand même pas très loin de Chartres. Vous êtes à combien de kilomètres?
On est à 50 kilomètres de Chartres.
Oui. Et de Verneuil-sur-Avre?
On est qu'à 5 kilomètres.
Voilà. Donc, votre ville de ressources, c'est Verneuil-sur-Avre.
Oui, c'est Verneuil-sur-Avre. Alors, on a fait longtemps partie de la communauté de communes de Verneuil-sur-Avre. Et puis là, maintenant, on est rattaché à l'agglo de Dru.
Voilà. Et peut-on dire aussi combien vous avez d'habitants?
Alors tout de suite, on est arrivé à 500 habitants.
Vous étiez beaucoup plus, je crois.
Alors, lorsque je suis arrivé au conseil municipal, on n'était que 340 à peu près. Mais grâce à l'initiative de mon prédécesseur et puis des conseils qui ont suivi, on a fait plusieurs lotissements et on est arrivé petit à petit à 500 habitants.
Oui. C'est-à-dire au kilomètre carré, 25 habitants à peu près, quoi.
Ah ben je sais, la surface c'est 1850 hectares, mais j'ai jamais fait la...
Ben je crois que ça fait 25 habitants au kilomètre carré. Alors, chers amis auditeurs, c'est un très joli paysage de vallons, et des vallons à perte de vue, pourrait-on dire.
Oui, il y a non seulement les vallons, mais aussi il y a les ciels, ou les cieux, comme vous voulez. Parce qu'on va parler tout à l'heure de Vlamingue.
Oui, oui.
Et Vlamingue est arrivé à Rueil, sans doute pour peindre ce qu'il avait vu déjà en passant rapidement.
Oui, c'est ça. Effectivement, les ciels sont absolument éblouissants. Alors, l'origine du mot gadelière, vous avez dit peut-être des arbres à fruits. Et Rueil, alors... Vous avez dit ruisseau, ça peut être quoi encore?
Alors, le terme ruellus,
oui,
ou ruiola, parce qu'on, oui, peut avoir les deux. Alors, ça veut dire la rivière.
Moi, j'ai même vu rotoyalo.
Oui.
Oui.
Alors donc, ça a eu un effet pratique, puisque 6 sources ont été captées pour alimenter Paris. Il y a un aqueduc qui relie Rueil à Paris. Enfin,
oui,
au bassin.
Ça c'est intéressant. Donc vous ne payez pas d'eau?
Si. Oui, c'est une question qu'on nous pose régulièrement, mais on a nos propres installations.
Ah oui, alors peut-être c'est moins cher pour vous.
Non.
Non.
Non. Non. c'est une question qui nous est posée et qui m'irritait un petit peu des fois. On croyait que la ville de Paris nous dédommageait,
oui,
quelque chose.
Oui, moi je le pensais.
On a touché quelques années. un tout petit peu de taxes professionnelles.
Oui.
Et puis avec les différentes réformes qu'il y a eu, on ne touche plus rien. Donc c'est de l'eau qui au départ de Rueil est gratuite. Alors ces installations, je précise, ont été faites en 1890 à l'initiative du préfet Poubelle.
Oui, c'est parce que en fait Paris manquait d'eau.
Paris manquait pas d'eau et manquait d'eau potable.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il y a eu plusieurs épidémies de choléra qui ont fait des centaines de victimes et il fallait prendre une décision pour alimenter Paris en eau potable.
Et combien vous avez vendu de, alors, de millions de, d'eau, de litres
normalement,
d'eau?
Normalement, le débit journalier est de entre 80 000 et 100 000 mètres cubes jour. Vous voyez, c'est une petite rivière. Mais arrivé à Paris, ça représente que 18% environ pour alimenter les Parisiens.
Oui.
Enfin, c'est pas neutre quand même.
Voilà, c'est quand même important. Ouais. Quand vous allez à Paris, vous pouvez dire que vous buvez votre eau.
Voilà.
Alors maintenant, ce serait gentil de nous faire visiter votre village, parce que c'est un très joli village et on peut y passer 2-3 heures sans s'ennuyer.
Oui, c'est d'ailleurs c'est un village qui est très dispersé du fait d'abord des deux communes regroupées et en plus des 15 hameaux qui sont répartis jusqu'à Verneuil et jusqu'à Brozolles. Alors évidemment, lorsqu'on arrive à Rueil, la première chose, c'est de découvrir ce que Vlaminck a vu.
Voilà, alors, et qui l'a incité à s'y implanter.
Alors, pourquoi il est arrivé là? Je pense qu'il y avait deux raisons. Il cherchait une maison à la campagne. Je crois qu'il avait vu sur Jaudré. Et puis finalement, la tourière lui a bien plu. Et en plus, c'est vrai que de son atelier de peinture, on a une très jolie vue sur la campagne un peu vallonnée, et les cieux que je vous ai parlé.
Oui. Et alors, il va arriver en quelle année?
Alors, il arrive en 1925.
Oui.
Il arrive en 1925, il est déjà très connu.
Oui.
Il a habité aussi Rueil, Malmaison, Rueil tout court.
Ah, décidément, c'était de Rueil. Oui.
Puis d'autres villages.
Oui, eh bien, ce serait bien que vous nous fassiez visiter cette maison de Vlaminck.
La Tourière. Lorsqu'on arrive, il y a d'abord un beau jardin potager et un peu un jardin d'herbes. Ensuite, donc, on arrive dans une grande cuisine où la table est souvent servie. Moi, je n'ai pas connu beaucoup du temps du peintre, mais c'était quelqu'un qui tenait bien à table, comme on dit.
Et est-ce que, justement, vous étiez maire quand il est venu?
Non, non.
Lui, il est arrivé en quelle année, donc?
Alors, il est arrivé en 1925 et il est décédé en 1958.
Et vous avez été maire?
En 77.
Oui, donc vraiment...
Mais je l'ai rencontré quand même une fois.
Ah oui, vous l'aviez rencontré quand il est venu habiter
voilà, parce que
Rueil,
mon père avait livré quelque chose, parce qu'ils avaient une petite ferme à côté de leur maison.
Ah oui.
Et mon père avait livré quelque chose et on est entré quelques minutes avec mon père, et Vlaminck était là. Et je me rappelle ce qu'il a dit. Il a dit, j'espère que vous avez gardé des chevaux, c'est bien d'avoir un tracteur. Mais moi, j'ai l'électricité, mais j'ai aussi des bougies. C'était l'aspect un petit peu, pas rétrograde, mais il n'était pas trop pour le progrès.
Il aimait la campagne. Et
exactement. Ça ne l'empêchait pas d'avoir des belles voitures.
Oui. Et maintenant, c'est sa fille alors qui habite cette
maison. Alors, il reste à la Tourière, Godelive, qui est la deuxième fille de sa deuxième femme. Parce que Vlaminck a marié une première fois. Il a eu déjà trois filles, qui sont décédées toutes les trois maintenant.
Oui.
Et puis de sa seconde épouse, Berthe. Donc il a eu deux filles, Edwige et Godelive.
Et c'est Godelive qui s'occupe de la maison.
Voilà.
Elle en a fait un musée ou c'est encore une...
Ah non, le musée, alors ça c'est compliqué. Pour l'instant, c'est la maison d'habitation de Godelive.
Qu'elle fait visiter?
Non.
Non.
Très rarement.
Oui.
Moi, j'arrivais à faire venir les préfets, mais elle n'aime pas trop les visites.
Oui.
Alors, puisqu'on a dit le mot musée, c'est un mot qui nous embête un petit peu parce que il a fallu, c'était presque fait, qu'il y ait un musée flamand à Verneuil, dans l'ancienne abbaye.
Ah oui.
Que la commune de Verneuil a racheté. Devant l'ampleur, la dépense, le budget de la communauté de communes n'a pas suffi et le projet a été arrêté. Alors que Godelieve avait fait don de ses dernières toiles pour ce musée. Alors ça nous a beaucoup embêtés.
Ah oui.
Alors le reste, lorsqu'on peut rentrer dans l'atelier,
oui.
Alors l'atelier, il y a un tas de choses. Il y a d'abord une grande baie vitrée par laquelle on voit la campagne.
Oui.
Il y a son accessoire de peinture qui sont restés tels quels.
Ah oui, on voit vraiment l'atelier.
Oui, on voit vraiment l'atelier. Et il y a aussi beaucoup d'objets africains, parce qu'il avait commencé à collectionner des objets africains, des
oui.
statuettes, des choses comme ça.
Est-ce qu'elle pense pouvoir récupérer les toiles et faire un musée chez elle?
Non, je pense que ça ne sera pas chez elle. Ce qui est probable, il y a plusieurs solutions. Verneuil n'ayant pas marché, je pense que la solution, ça serait peut-être le musée de Chartres,
oui.
qui va être rénové et qui est déjà dépositaire
oui.
des toiles données par la fille aînée de oui. Flamand.
On en parle beaucoup,
oui.
effectivement. Et peut-être que c'est bien aussi, parce que Chartres est quand même un plus grand centre et ce sera plus facile pour les touristes de venir à Chartres.
Oui, parce que moi, j'ai eu l'occasion de viser quelques musées, notamment celui de Courbet. Vous savez, il n'y a pas une foule énorme. Il y a une foule quand il y a des grandes expositions à Paris.
C'est ça.
Là, il y a du monde.
Mm.
Mais à la campagne, ça marche moyennement.
C'est-à-dire que Rueil-la-Gadelière, c'est un très, très beau village, mais c'est quand même plus compliqué pour y aller que d'aller à Chartres, par exemple. Alors, justement, puisque nous étions dans ce domaine de Vlaminck, est-ce que vous pouvez aussi nous parler un peu des tableaux que vous avez vus et qui vous ont particulièrement marqué? Parce que vous évoquiez les ciels de Vlaminck. Alors, parlez-nous un petit peu de ce que vous avez vu et de ce que vous avez aimé.
Écoutez, moi, il y en a un qui me plaît bien, c'est l'autoportrait.
Oui.
L'autoportrait, il reflète bien sa nature, si vous voulez. Quelqu'un de robuste, pas trop facile peut-être. Je pense que l'autoportrait, il y a la fille, il y a la poupée aussi, qui me plaît bien. Les natures mortes, j'aime moins bien.
Oui.
J'aime moins bien. Par contre, il y a beaucoup de paysages dans la forêt de Senonce, des choses comme ça, qui sont aussi très beaux.
Oui.
Très beaux.
Alors, il y a beaucoup de paysages. Et justement, la forêt de Senonce, c'est magnifique ce qu'il a fait là. Et c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas notre région, quand ils voient les paysages de Vlaminck, ils sont vraiment enthousiasmés, on peut le dire. J'en reviens à Rueil-la-Gadelière. Alors, vous nous avez fait un peu visiter la maison. Qu'y a-t-il encore à voir? Parce que je sais qu'il y a un très beau château.
Bon, je reviens un instant sur Vlaminck.
Oui.
Parce qu'il faut quand même passer rapidement au cimetière, voir la tombe de Vlaminck.
Ah oui.
Avec sa femme, une de ses filles et une autre personne que je vais parler tout à l'heure. Et puis, il y a aussi le buste qui a été fait par Paul Belmondo.
Belmondo, qui est un grand sculpteur.
Oui. Et donc, il y a un buste de Vlaminck qui est fait sur la place communale. Et qui est accessible à tout le monde. La tombe aussi, évidemment. Et donc, je vais vous parler maintenant des maisons fortes ou des places fortes.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons faire une pause musicale avant cela.
Thank you.
j'en arrive aux places fortes, parce qu'elles sont importantes à Rueil-la-Gadelière. Alors faites-nous visiter ces places fortes, c'est-à-dire que nous avons château, manoir. Faites-nous visiter tout cela et je pense que beaucoup de nos auditeurs auront envie de vous suivre.
Eh bien, il y a au moins deux places fortes importantes. Il y a d'abord l'ensemble de la Gadelière qui est constitué d'une grande ferme fermée. En plus de la ferme, il y a l'ancienne église de la Gadelière qui sert des fois pour faire des concerts, dont le printemps musical qui a eu lieu il y a quelques années. Il y a aussi un pigeonnier et il y a une maison ancienne avec un four à pain qui peut encore être en service.
Oui.
Alors cet ensemble de la Gadelière est ouvert au public, principalement l'été, et la Madame de la Vessière reçoit les gens plusieurs fois par an.
Donc parce que Madame de la Vessière est la propriétaire
de la Gadelière.
La Gadelière, c'est-à-dire cette place forte.
J'appelle ça une place forte aussi.
Voilà. Donc cette place forte qui comprend donc plusieurs éléments.
Voilà. Alors pourquoi c'était comme ça ?
Oui.
Parce qu'on est à la limite de la France et de l'Angleterre dans la guerre de 100 ans.
Ah oui, bien sûr.
Et ça, les gens avaient l'habitude de se réunir en cas d'attaque, dans un endroit clos.
Oui.
Et qui pouvait boucher toutes les issues. On appelle ça les places fortes.
Oui. Mais alors, cette place forte a à l'intérieur, si je puis dire, le four banal, c'est ça ?
Oui.
Alors, ce four banal, est-ce que quelquefois vous vous en servez pour faire des démonstrations ?
Non. Non. C'est dommage, mais je crois qu'il a servi une fois, mais il y a déjà longtemps. Par contre, il y a un autre four sur l'ex-commune de Rueil qui fonctionne de temps en temps.
Oui. Oui, parce que ça, c'est souvent maintenant dans les villages, pour montrer aux enfants comment ça se passait, ça, on fait ça. Non. Alors, il y a donc ce four, il y a donc aussi une maison.
Oui, et c'est un beau manoir.
Un beau manoir.
Avec des petites douves, des douves sèches.
Des douves sèches, oui.
Des douves sèches autour, mais il y a sans doute eu de l'eau à un certain moment. C'est des douves sèches.
Oui. Et alors, ce manoir, on peut le visiter ou...
Oui, à partir de juillet-août, il est visitable tous les week-ends.
Ah, mais ça, c'est très intéressant.
C'est sur le site internet de la Gadelière.
Voilà. Et alors, ce manoir, est-ce que vous pouvez nous le faire visiter à nous qui sommes en train d'écouter Radio Grand-Ciel ?
On l'a encore visité au mois de septembre lors des Journées du patrimoine parce qu'on avait fait un rallye promenade auto.
Ah oui !
Et on avait fait une étape, donc, à la Gadelière.
Très bien.
La première étape.
Alors, décrivez-nous un peu ce manoir.
Oui, et puis alors, il y a une autre place forte à côté.
Oui.
Je peux embrayer.
Oui.
Une autre place forte qui s'appelle la Potinière. Alors là, c'est un...
Et pourquoi la Potinière, le sait-on ?
Ça, je ne sais pas.
Bon, on cherchera.
C'est peut-être les potins, mais... Alors, la Potinière, c'est intéressant parce que là, il y a des douves en eau et il y a de l'eau toute l'année. C'est assez curieux parce qu'on est plutôt sur un plateau et il y a de l'eau qui vient, je ne sais pas trop comment, il y a sans doute une source, ça ne peut pas être autrement d'ailleurs.
Oui.
Alors c'était une ferme aussi qui était plus ou moins à l'abandon et que la famille Réquillard a magnifiquement restaurée, magnifiquement. Malheureusement, on ne visite pas. Ou
non.
Alors, il faut connaître.
Oui. Mais c'est vrai que moi, je connais et je peux dire que c'est vraiment une très jolie maison qui a été vraiment bien restaurée parce qu'il y avait beaucoup de travaux à faire et que maintenant, c'est quand même un bel endroit dans Rueil.
Puis à quelques centaines de mètres, il y a une ferme ancienne qui appartenait d'ailleurs à la même famille. Bon, là, il n'y a pas de fortification, mais c'est quand même une ferme fermée. Comme ça se faisait d'ailleurs en Beauce, les fermes fermées pour protéger les gens.
Oui, parce qu'il faut dire que la Beauce est tellement plat, et si on n'est pas protégé, le vent s'engouffre. Hein. Ça, c'est assez.
Oui, il y a un peu de vent. Oui.
Il y a beaucoup de vent, et je pense que justement, le peintre a aimé cela, parce qu'on voit cela aussi dans les peintures de Vlaminck.
Exactement.
Hein, les écrans à plat de peinture.
Il l'a bien interprété.
Oui. Donc, que peut-on ajouter encore à cette visite de Rueil-la-Gadelière ?
Alors, je voudrais qu'on parle des écrivains.
Oui, parce que sur le monument aux morts, il y a un nom, et je voudrais que vous évoquiez ce nom.
Oui, alors il y a un nom d'écrit, c'est Vicky Obolensky.
Voilà.
Alors la famille Obolensky, c'est des princes russes qui ont fui la Russie en 1917, pour des raisons que vous savez. Et monsieur Obolensky était venu travailler aux sources de la ville de Paris pour la réfection d'un canal. Et madame Obolensky s'est engagée dans la résistance. Elle a été arrêtée, torturée et décapitée à la hache à Berlin.
Ah,
il paraît que c'était le sort réservé aux femmes. Alors, il y a une version un peu différente qui dit qu'elle a été fusillée, mais le résultat est le même. Il paraît que les femmes s'étaient décapitées. Bon, quelques années après la fin de la guerre, en 1958, son nom a été inscrit sur le monument aux morts de Rueil, mm-hmm. et le ministre Edmond Michelet est venu lui-même organiser, enfin pas organiser, mais patronner l'inauguration de cette inscription. Oui. On a quelques photos d'ailleurs intéressantes de M. Michelet et de M. Obolensky qui lui-même avait été torturé. Il avait eu les pieds écrasés, lui.
Ah, oh, quelle horreur.
C'est pas très gai ce que je vous raconte.
Ben non, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il faut que nos jeunes sachent ce qui s'est passé. Oui. Et ça, c'est très important. Oui.
Alors, si on a un petit peu de temps, je voudrais parler des écrivains.
Oui.
Parce qu'à une période de l'après-guerre, entre 50 et 70, on avait 4 écrivains à Rueil. Ce qui, pour 500 habitants,
oui, c'est 4 écrivains, un grand peintre, vraiment,
alors donc,
des génies.
Le peintre lui-même était écrivain. Mm-hmm. Il a écrit quelques livres, Tournant dangereux, enfin...
Vous avez lu tous ses livres?
Oui, j'ai lu deux ou trois de ses bouquins. Il est un peu dur avec ses collègues peintres. certains. J'ai oublié de dire tout à l'heure, à la Tourière, il y a un tas d'artistes qui ont défilé avant la guerre, que ça soit même après la guerre, que ce soit c'est... Bourville, Derain, et bien d'autres. Hein.
Oui, c'est une maison de peintres. Malheureusement, on ne la visite pas.
Ben,
quoi.
Voilà, mais peut-être qu'un
peut-être,
jour.
Peut-être, oui.
Alors, il y a aussi Françoise Mareille. Alors, Françoise Mareille, c'était une petite nièce de François Mauriac. Et monsieur et madame de son nom de femme, c'était Letouzé. Et la famille Letouzé a habité la commune environ une quarantaine d'années.
Oui.
Et entre deux courses de cheval, parce qu'elle aimait bien faire du cheval, elle écrivait, gentiment d'ailleurs. Elle a écrit, je ne sais pas, peut-être 25 ou 30 bouquins.
Oui.
Et elle a aussi pris une initiative sensationnelle pour l'époque. Il y a 30 ans, elle a photographié tous les gens de la commune.
Ah ! Mais on a déjà eu un numéro au Pays de Perche avec tous les habitants comme ça du Perche.
Oui.
Hein. Oui.
Et alors, je suis dépositaire de ces photos.
Ah.
Et j'espère qu'au mois d'avril-mai, après les élections municipales, je vais essayer d'organiser une soirée photo sur ce thème.
Ah oui, c'est très intéressant, ça.
Et puis, il y avait aussi Michel Cambard. Michel Audouin Cambard, qui était la fille naturelle d'Yves Mirande. Yves Mirande, c'est un chansonnier parisien.
Ah.
Ça vous dit rien, Mirande?
Non.
On ne peut pas tout savoir.
Ben non, ben non. Mais vous êtes là pour m'apprendre, alors j'écoute.
Donc, Michel était Rochambelle.
Ah oui, je connais.
Donc, elle a fait toute la campagne de France avec Madame Massue, la femme du général Massue, et elle a fait une partie de la campagne d'Indochine. Elle s'est mariée là-bas, le mariage n'a pas marché. Elle est revenue complètement désemparée d'Indochine, et comme par hasard, elle trouve Vlaminck à Pont-Aven. Et Vlaminck lui dit, viens à la maison, j'ai un tas de courriers à trier, tu vas me servir de secrétaire. Et elle est restée à Rueil.
Ah oui.
Elle était très populaire à Rueil parce que à l'armée, elle avait appris à faire les piqûres et elle faisait un peu l'infirmière à l'époque.
Ah oui.
Et chaque midi, elle allait prendre son petit apéritif au café, ce qui la rendait encore plus populaire.
Bien sûr.
On avait la chance d'avoir un café à l'époque.
Vous n'avez plus de café?
Non,
alors, le maire, qu'est-ce, il n'a pas pu réussir à avoir un maire.
Il a essayé en son temps, mais... Voilà, donc on a eu 4 écrivains en même temps.
Et alors là, vous n'avez pas cité les ouvrages, les livres que...
Eh bien, Françoise Mareille a écrit, par exemple, « Mort aux dents ».
Oui. Vous pouvez nous raconter un peu ce livre ?
Je les ai là, mais on ne va pas avoir le temps de les lire cet après-midi.
Non, mais vous nous racontez un peu l'histoire.
Je sais que Magali, dans un de ses bouquins, parle de notre village.
Ah.
Et elle parle justement du café que je vous parlais tout à l'heure.
Ah, très bien. Hein? Oui.
C'est des romans, ils n'ont pas eu le prix Goncourt, mais c'est quand même assez facile à lire et intéressant.
Oui, puis c'est local, donc pour mieux connaître le Perche, c'est encore le Perche chez vous.
Oui.
Voilà.
Le Perche tiré par les cheveux.
Oui, enfin quand même, on sait que la Ferté-Vidame...
Puisque vous m'aiguillez sur le Perche, je vais en dire un petit mot quand
même. Oui.
Parce que les régions, il y a environ 30 ans de ça, avaient décidé de faire des pays d'accueil.
Oui.
Donc Jacques Dussutour, que vous connaissez, aussitôt s'est mis au travail et on a constitué le pays d'accueil Perche d'Eure-et-Loir.
Oui.
Et j'étais partie prenante,
j'étais
son secrétaire, son vice-président.
Oui.
Et entre toutes les actions qu'on a fait, surtout en faveur du commerce local et de l'animation, on a fait le printemps musical, qui a connu un succès considérable, puisqu'il y a eu des centaines de concerts. L'idée, c'était d'amener la grande musique dans les églises de campagne, dans les coins les plus reculés de la campagne.
Ça existe toujours. Ça existe toujours.
Ça existe encore, oui.
Oui.
Et c'était vraiment une belle initiative.
Ah oui. Oui, oui. Et c'est vrai que Jacques Dussutour a été vraiment un des personnages très importants du Perche. Hein.
Alors, la commune d'Orbeil faisait partie du Perche par les hasards des découpages administratifs agricoles.
Ah oui.
Voilà, on s'est trouvé comme ça dans le Perche. Malheureusement, avec les différentes réformes qu'il y a eu, maintenant on est parti d'un autre côté. Mais moi, je regrette beaucoup parce que j'ai passé près de 20 ans avec Jacques Dussutour et on a pas mal...
Mais oui, puisque c'est lui qui a initié le parc du Perche, ça c'est sûr.
Oui, et justement, j'étais aussi à la préparation du parc.
Mais oui, bien sûr, puisque vous étiez...
Qui allait se concrétiser.
Oui, vous étiez avec lui. Alors, toujours à Rueil... Vous avez parlé d'une église. J'aimerais bien que nous visitions cette église avec une nef très belle. C'est une église romane, je crois.
C'est-à-dire, comme toutes les églises, il y a plusieurs époques. Il y a plusieurs époques, mais ce qui est intéressant, vous avez cité, c'est la nef, qui est encore en très bon état.
Oui.
Le temps que j'étais maire, j'ai pu refaire les toitures.
Oui.
Parce qu'il y a 2 toitures différentes. Une partie tuile, une partie ardoise. Et puis, alors à l'intérieur, il y a le retable qui est classé.
Ah
le retable est classé.
Vous pouvez nous le décrire, ce
retable ? Le retable, c'est un retable assez classique de notre région.
Oui.
Avec 2 grandes colonnes de chaque côté.
Mm-hmm.
Et puis au centre, le tabernacle, évidemment.
Bien sûr.
Et puis, il y a un très beau tableau, une descente de croix de Jésus.
C'est un tableau
que j'ai fait restaurer avant de quitter.
Oui, c'est un tableau qui est classé.
Alors, le retable est classé.
Le retable est classé. Eh bien, écoutez, je crois que nous aurons vraiment à cœur d'aller visiter Rueil, la Gadelière, un village qui a l'air enchanteur. Un grand merci à vous, Guy Navo. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, Guy Navo.
Merci, Christiane.